Bienvenue à l'église évangélique de Mérin Village en ce dimanche 4 juin à 10h. C'est un dimanche particulier pour la chrétienté, il rappelle la Pentecôte. Ici, George Baumgartner, Tokyo. Vous avez sûrement entendu cela à la radio et peut-être comme moi, vous aviez une fois envie de voir le visage de ce George Baumgartner, Tokyo. Et la télévision l'a rendu possible. C'est très important de connaître le regard d'une personne. Est-ce que c'est un visage sympathique? Comment est-il? La Pentecôte, soit le don de Dieu, le don du Saint-Esprit, nous donne le visage de Dieu. Le regard de Dieu pour l'humanité, c'est ça la Pentecôte. Je vous accueillerai quand même avec les paroles du Christ qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Oui, c'est avec cette parole du Christ que nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Et je sais qu'il y a des personnes qui nous rejoignent ce matin. Je voudrais saluer tout particulièrement Jean Bierry de Montréal, qui enseigne à Montréal. Alors, bienvenue. Je crois qu'il y a aussi des représentants de Wycliffe. Alors, enfin, que chacun soit accueilli. Et il y a les enfants aussi qui sont là. Alors, il n'y a pas grand-chose de particulier pour eux, mais il y aura un clip. Et comme le clip viendra avant le temps de louange, eh bien, ils pourront voir aussi le clip qui sera projeté. Je lirai encore quelques versets. D'abord dans Proverbe 22, verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Et il y a encore un autre texte. Dans le psaume 34, verset 6, quand on tourne les regards vers lui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. C'est pour que nous puissions voir le Christ, Dieu, et que nous puissions rayonner de sa joie. Nous prierons. Oui, Seigneur, que ton esprit donne à nos cœurs de connaître le visage de Dieu, notre Père et Sauveur. Qu'il nous rende sensibles à la présence de Dieu parmi nous. Déjà, les prophètes ont pu dire que tu portais tes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Que ce culte que nous voulons te rendre nous fortifie dans notre foi et dans la connaissance de Dieu. Sois béni, ô notre Dieu, d'être parmi nous. Amen. Et nous chanterons d'abord un chant, c'est le 202. Et ensuite, nous aurons le clip vidéo.
Entendu parler de toi. Quand je l'ai vu, je trouve qu'il ressemble à mon fils. Il a la même barbe.
Well, just a human being, right? Bonne chance et bienvenue.
Merci.
You have a nice eyes.
Oh, thank you.
I try to give you strength. It's not so easy.
I felt it, yeah.
French like that, it's French way. In Belgium, only one. On one check.
It's me.
It's okay. Someday I'm gonna be with you. It's okay. Someday I'm gonna be with you. It's okay. Someday I'm gonna be with you.
On peut imaginer toute la force d'un regard. Et maintenant, je donne la parole au groupe qui va nous conduire dans la louange. Merci de ce qu'ils ont préparé pour nous ce matin.
Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte et c'est un moment de rencontre entre Dieu et nous, où Dieu a envoyé son Esprit Saint sur nous pour qu'on puisse mieux entretenir notre relation avec lui, mieux le rencontrer. Et je voudrais juste lire le verset dans 1 Jean 4. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et aujourd'hui, on vient rencontrer Dieu parce qu'il est venu d'abord à notre rencontre. Et c'est dans ce sens-là que je vous encourage à prendre les chants que nous allons avoir maintenant. Sentez-vous libre de vous lever, de rester assis si vous avez besoin, de prier quand vous voulez, et simplement suivre les chants.
Te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te souffle sur moi.
créateur de la vie. Mon secours est en toi. Je lève les yeux.
Que je peux avancer sans toi, mais c'est souvent quand je trébuche, je me rends compte qu'en fait tu me portais. Merci d'être toujours là, merci d'être mon vis-à-vis, d'avoir toujours le regard sur moi. T'es grand Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Amen.
Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends.
Caché, garde-nous.
Je crois que c'est le moment pour les enfants de rejoindre leur moniteur d'école du dimanche. Et nous demandons au Seigneur qu'il vous accompagne, qu'il accompagne aussi ceux qui leur apporteront le message aussi de l'amour de Dieu pour eux. C'est Claude Bécher qui nous apportera la méditation ce matin et je lirai un texte dans les Actes qui accompagneront le message. Acte 2, les versets 5 à 18. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront.
Chers amis, frères et sœurs, je vous salue dans le Seigneur à mon tour. Joyeuse Pentecôte. Je préfère dire ça que joyeuse ascension, parce que ce n'est pas vous qui devez partir, nous on doit rester. Lui, il est à la droite de Dieu et il veut interférer sur la terre. C'est ça, Pentecôte. Que la colombe qui est revenue pour attester après Noé et le déluge que la terre était de nouveau habitable nous rejoigne tous. J'ai mis comme thème un thème que je ne savais pas nommer autrement, Pentecôte, c'est-à-dire une fête des moissons et une fête de l'alliance avec le Seigneur. Pour les Juifs, 50 ans après Pâques, 50 jours après Pâques, plus grand, plus large, plus fort, plus profond qu'on l'imagine. J'ai mis comme sous-titre « L'esprit change les regards ». Vous vous souvenez de ce que l'on a vu, le clip ? Je ne sais pas, j'arrive pas à retenir mes larmes quand je vois ça, il faut que j'analyse pourquoi. Moi, ça me prend au plus profond de moi-même et je me dis, là, il y a quelque chose qui se passe, qui est relativement rare. Des gens qui prennent 4 minutes pour se regarder dans les yeux et se considérer. C'est une éternité, 4 minutes. Et il y a des choses qui se passent quand on ne se parle pas autrement qu'en communiant du regard. Je suis le seul à avoir versé une larme. À vous aussi ? Ah, il y en a quelques-uns ici. Il faudrait qu'on s'analyse un petit peu. Les autres, ça va ? Je ne rentrerai pas dans des détails. Je vais juste essayer de toucher un équilibre des choses en rapport avec 2 événements qui est l'un, la résurrection et l'ascension de Jésus, et l'autre, l'ascension et la Pentecôte. Très souvent, on imagine, les chrétiens fêtaient tout ça séparément. Ben non, les premiers chrétiens, quand on lit leur texte, ils célébraient la résurrection et l'intronisation, ascension. Et l'intronisation, ascension, et la Pentecôte. Jamais ils séparaient les choses comme nous. Du style, Jésus, tu es parti au ciel, c'est pour que nous, on va bientôt te rejoindre. On ne sait pas quoi faire de l'ascension, à vrai dire. Et le ciel, c'est où ? Il est juste dit qu'il disparut dans la nuée. Il n'est pas dit qu'il a pris l'ascenseur. Il n'est pas dit qu'il est tout à fait disparu. Il est juste dit qu'il est dans cet endroit qui s'appelle le ciel et qui est une autre dimension de cette création. Ce n'est pas dans un lieu derrière la lune, c'est juste dans un lieu de domination de la proximité de Dieu. Nous avons souvent des drôles de manières d'enregistrer les événements. Je passe la prochaine. Je ne sais pas si vous le voyez, j'étais dans une église en Italie qui essayait, et le peintre, sans doute du 19e siècle, essayait de peindre la Pentecôte. Vous ne voyez pas bien ici. Hein. Vous voyez des langues de feu ? Oui. Vous voyez aussi Marie, bien sûr, c'est une église catholique. Elle a une énorme place. Et vous avez quelque part autour des apôtres, c'est juste ? Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment comme ça, et puis que ça s'est passé, mais c'est comme ça qu'on se représente les choses. Nous aussi, on a souvent des représentations mentales de ce que c'est Pentecôte, de ce que c'est l'ascension. Et quand on laisse l'écriture nous toucher, ces équilibres de choses, bien souvent nos tableaux sont corrigés. C'est ce que j'espère qu'il va avoir lieu un petit peu pour l'un ou l'autre parmi nous ce matin. Des langues de feu, ils se mirent à parler en d'autres langues. Ça se sut dans ce grand environnement plein de gens qui étaient Jérusalem. Et les gens se disaient, comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles des merveilles de Dieu ? C'est bien ça, hein ? Dans nos langues maternelles des merveilles de Dieu. Je me posais une question. Qu'est-ce qui a rendu possible l'œuvre du Saint-Esprit ? C'est quand même une bonne question, non ? Sinon, on va mettre un esprit autonome qui va nous amener, on ne sait pas trop où. Du style, une prière païenne que j'ai entendue, « Que ma volonté soit faite, parce que si c'est la tienne, Seigneur, Dieu sait où ça nous mènera. » Alors revenons à cette prière du Notre Père, « Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, ce qui rend possible » l'œuvre de l'Esprit, je vous rappelle simplement un équilibre des choses. Jésus qui va dire « C'est votre avantage que je m'en aille ». Mais il ne l'a pas dit quand il est venu en tant que bébé. Hein. Il l'a dit après un ministère de 3 ans. Après un ministère de 3 ans, il s'adresse à ses disciples et il dit « C'est votre avantage que je m'en aille ». En effet, si je ne pars pas, l'assistant, paraclète en grec, ou consolateur, disent certaines versions, ou assistant, ou défenseur, c'est le même mot, paraclète. Si je ne pars pas, l'assistant ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Quelque part, sur la surface de la terre, en ce moment, il y a des hommes et des femmes rassemblés comme nous qui ont besoin de cet assistant. Et si Jésus était resté parmi nous, il serait que à Mérin, absent ailleurs, enfin, ou à Hong Kong et absent à Mérin, c'est pareil, hein ? L'assistant du Seigneur nous est promis parce qu'on en a besoin. Parce que les 4 minutes avec l'étranger, c'est plus rare qu'on l'imagine. Parce que je suis programmé, pas pour faire ça, précisément, pas pour aimer vraiment celui que je côtoie. Deuxième passage, je prends l'évangile selon Jean. Toujours la question, qu'est-ce qui rend possible l'œuvre et l'envoi de l'Esprit-Saint ? Et je reviens à un enseignement de Jésus dans l'évangile selon Jean, chapitre 7. Qu'est-ce qui rend possible ? Jésus dit, si quelqu'un a soif, vous savez, cette sorte d'insatisfaction, du manque de quelque chose d'important dans la vie, hein, quelque chose qu'on cherche et après lequel on court. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit Jésus, et qu'il boive, et que boive celui qui croit en moi. Jusque-là, c'est une image. Comme l'a dit l'Écriture, dit Jésus, continue Jésus, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Autrement dit, de lui couleront quelque chose qui va féconder les déserts de nos cœurs, de nos situations. Après, Jésus continue en disant, il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est que ce charabia religieux ? Comment Jésus n'a pas été glorifié ? Il n'est pas encore ressuscité ? Mais quel est le rapport entre sa glorification et l'envoi de l'Esprit ? Et c'est ce que nous voyons en abordant quelque chose d'important. Quand Jésus, je prends une image, il est comme ce parent oiseau devant un petit dans le nid. À un moment donné, Jésus décide de le pousser hors du nid pour qu'il vole de ses propres ailes. C'est ça, Pentecôte. Il est plus présent et dit, vas-y, mais je t'envoie l'assistant. Et pour nous, c'est une libération qui va avoir lieu. Et j'aimerais maintenant toucher par la parole de l'apôtre Paul, et en général, ces phrases sont assez compliquées, pour que vous voyez la relation entre l'esprit et puis la glorification. Alors là, je prends un extrait d'une lettre envoyée par Paul à des chrétiens d'Éphèse. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père. Et maintenant vient le langage de la puissance. Quelle immense puissance il a déployée en notre faveur à nous les croyants. Son énergie, sa force, toute puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite. En général, la droite, c'est là où on frappe fort, hein. Enfin, les droitiers. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux, c'est-à-dire cette dimension de l'existence où Dieu règne pleinement, bien au-dessus de toutes, et maintenant il y a un drôle de truc, c'est quoi la glorification ? C'est le grand ménage, le Christ, bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté, de tout autre nom qui puisse être nommé avec une majuscule par les hommes, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Oui, il a tout mis sous les pieds du Christ et il l'a donné en chef de tout, au sommet de tout, pour tête de l'Église qui est son corps, la plénitude de celui que Dieu remplit tout en tous. Vous voyez, c'est typique de l'apôtre Paul. Il y a 10 prédications là-dedans. Tout simplement, ce qu'on va retenir, c'est que ici, glorification signifie qu'il est intronisé. Le Christ est victorieux sur la mort. Quand on le suit, il y a une nouvelle et bonne création pour tous ceux qui le suivent. Il est au-dessus des puissances de ségrégation. Il est au-dessus des puissances de haine. Il est au-dessus des puissances d'intérêts particuliers au détriment des autres. Les autorités et les puissances sont des vraies puissances opérationnelles en nous et dans la société, plus qu'on le croit. Et c'est là qu'il y a le grand ménage. Quand il est dit, c'est le Christ glorifié qui envoie son esprit, ça veut dire, c'est le Christ qui a fait du ménage, qui est reconnu pour ce qu'il est au-dessus de toute chose, et c'est lui qui envoie sa mentalité. Esprit, c'est souffle. En hébreu, le souffle, vous ne pouvez pas séparer le souffle de Claude de Claude. Le jour où il n'aura plus de souffle, c'est que Claude sera ailleurs. Hein? Enfin, je pense. Eh bien, c'est important pour nous aussi que quand on s'ouvre à Pentecôte, on s'ouvre à un grand ménage de quelqu'un qui vient faire du ménage en nous, de peureux que nous étions, du peureux de la rencontre d'autrui, du calculateur que nous étions, du dur que nous étions parfois, du gars ou de la fille qui ne fréquente que ce qui lui ressemble quand il est sûr que les autres vont l'accueillir aussi, à la bonté, à l'amour, à la rencontre d'autrui comme le Christ a fait. Du coup, Pentecôte, ça prend une autre dimension que quelque chose de mystique et de piétiste qui soit déconnecté de la vie. Pentecôte n'est pas déconnecté de la vie normale. Et je crois que c'est important. Ce n'est pas un shoot religieux supplémentaire. Pardon, vous arrivez à comprendre ? Ce n'est pas une drogue supplémentaire à la vie normale. C'est le ménage dans la vie normale. Et c'est ce que nous essayons de voir ensemble. Je le redis, je résume l'ascension du Christ, de ce Jésus. C'est une intronisation. Son esprit qui vient, c'est l'esprit où il y a eu un grand ménage de fées, où il est au-dessus de tout pouvoir qui me séparerait des autres. Ce que j'ai appelé les esprits de ségrégation opérationnels dans la vie. Alors, il règne et de lui vient à la fois l'esprit et un mandat nouveau. « Je vous enverrai l'esprit, vous serez mes témoins. » Ça veut dire quoi ? Qu'on est en ambassade. Dès que j'ai son esprit, je suis en ambassade d'un souverain. Bon, nous, les Suisses, on n'a pas... Enfin, nous, les Suisses, par immigration, peu importe, ou par naissance, nous n'avons pas droit, hein ? Ou bien, on a juste des petits roitelets. Mais on n'a pas droit. Mais dans une intronisation, il est important de savoir que quand un roi est roi, et pas comme en Angleterre, ce n'est pas un roi d'apparat, vous comprenez la différence ? C'est un roi qui règne. Eh bien, il envoie son esprit comme un esprit d'ambassade pour que son règne progresse, pour que ses affaires soient reconnues pour saines et bonnes. C'est pour ça qu'on retrouve ce langage, par exemple, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, « Nous sommes ambassadeurs de la réconciliation ». L'Esprit de Dieu, ce n'est pas autre chose que ça, c'est que son règne à Jésus continue, à la place du Christ. Et là, il y a une dimension importante, vous verrez, à la fois quand on dit « ça m'édifie », en fait, quand ça m'édifie tout seul, ça ne compte pas beaucoup. C'est juste pas grand-chose. Quand on dit « ça édifie l'Église », c'est que ça fait du bien à tout le monde. Vous comprenez ? Tous les charismes sont récupérables quand ça fait du bien à tout le monde. Mais quand ça ne fait pas du bien à tout le monde, c'est peu de choses. Édifiant, c'est la présence de Dieu dans un temple. Corps de Christ, c'est la même chose. Quand je dis « je fais partie du corps de Christ », ça veut dire « je continue ce que le Christ a fait et j'ai besoin pour cela de l'assistance de sa force, de son esprit ». Maintenant, vous avez vu, il est au-dessus des puissances, des autorités. Ça veut dire quoi ? Que s'il est au-dessus, c'est qu'il a fait le grand ménage. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi qui reçois sa parole et son esprit ? Ça veut dire que je détrône un certain nombre de choses. L'esprit de Dieu est un esprit d'affranchissement des choses qui me catéchisent, qui me formatent dans le sens de l'égoïsme et de la méchanceté. C'est pour ça que Jean le Baptiste ou que Jésus, quand il évangélisait, il disait « Repentez-vous, le royaume de Dieu est sur le point de faire irruption ». Pour le Saint-Esprit, c'est simplement l'application de ceci. Il peut y avoir une repentance intelligente, une sorte de manière de détrôner des choses qui nous mènent par le bout du nez, qui sont les autorités et les puissances. C'est pour ça que cet esprit-là, c'est un esprit très particulier, où il fait bon vivre quand on le vit dans la réception et qu'on est de nouveau rempli. Le Christ reprend le pouvoir que ses autorités avaient usurpé. Dans nos vies, je ne sais pas, je serais heureux de retrouver le miracle si chacun de nous, dans cette semaine, chacun de nous, une seule fois, dans cette semaine, trouvait avec une personne avec laquelle il n'a jamais parlé, 4 minutes pour se regarder dans les yeux. Mes amis, la Suisse deviendrait une terre sainte. Non ? Chiche ? J'aimerais vous rendre attentif à quelque chose. Souvent, on ne voit pas ces grandes relations. Pentecôte, ça concernait toutes les langues. Vous êtes d'accord ? Ça veut dire quoi ? Pentecôte, c'était la présence de Dieu. Pour un juif, Dieu revient, ça veut dire qu'il n'est plus fâché. Dieu nous pardonne en Jésus. Si Dieu nous pardonne en Jésus, c'est qu'il revient habiter parmi nous. Du coup, tout le monde regarde le temple, les temples. Mais non, manque de peau. Ce n'est pas dans le temple qu'il revient, c'est chez des gens normaux, dans des corps normaux. C'est là qu'il décide d'habiter. Il ne va pas dans le temple de Jérusalem, il va, et ça c'est neuf, chez des gens. Alors, j'aimerais vous rendre attentif à quoi pense un juif quand il pense à présence de Dieu. Vous savez à quoi il pense ? Le grand exode. Tout d'un coup, la présence de Dieu s'est manifestée par une colonne, d'accord ? De feu la nuit pour les guider et pour les protéger. Et une colonne de nuée le jour pour les guider et les protéger. Le Saint-Esprit et Pentecôte, c'est la même chose. Un peuple conduit par Dieu où Dieu habite. Du coup, il y a quantité de choses qui se mettent en ordre dans les vies. Il y a certaines choses qu'on faisait parce que c'était assez coutumier de le faire et qu'on ne fait plus. Et il y a certaines choses qu'on n'imagine même pas qu'on aurait fait, que le Saint-Esprit nous dit « Je veux passer par toi pour construire mon temple à toi ». J'ai besoin de toi. Et c'est là qu'interviennent cette histoire de dons. Pentecôte, c'est donc l'équivalent de la colonne de nuée et de feu qui guide et protège le peuple. Vous avez déjà pensé à la Pentecôte dans ces catégories ? On s'imagine très souvent le Saint-Esprit comme une mystique supplémentaire que je peux avoir si je fais un gros effort de le recevoir. D'accord ? Mais pas quelqu'un qui transforme ma vie normale, d'abord. Et c'est là que l'on voit qu'on n'est pas délivré de la création quand on aime le Saint-Esprit, on est délivré pour la création nouvelle. Et ça change quelque chose. On n'est pas délivré de la création pour aller au ciel, on est délivré pour la création, pour la rendre nouvelle création. En théologie et en spiritualité, ça change quelque chose. Je ne prie pas de la même manière quand j'ai intégré cela. Maintenant, vous avez vu, l'apôtre Pierre, il dit, non, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas bu. Ils sont en train d'accomplir ce qui a été prophétisé par le Seigneur dans Joël. Joël, c'est un prophète qui est du 9e siècle. Et puis, on trouve dans Joël cette parole, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Ça fait beaucoup, hein ? Chair, le mot chair, sur toute personne. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et les filles ? Prophétiser, ça veut dire porter la pensée du Seigneur. Vos fils et vos filles porteront la pensée du Seigneur, la mentalité du Seigneur. Vos vieillards auront même des perspectives. Enfin, ce n'est pas marqué comme ça. Vous avez vu ? Vous avez déjà vu des vieillards qui ont des songes, pas des cauchemars, hein, des songes. Ça veut dire quoi ? Ils voient venir quelque chose, les vieillards, mes amis. Pour cette vie et pour la vie à venir, ça change quelque chose. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, c'est normalement sans parole, même sur, et maintenant, inimaginable dans le judaïsme. Normalement, le Saint-Esprit, ça concernait quelques rois, quelques sacrificateurs, quelques prophètes, d'accord ? Et maintenant, pour vous montrer que ça concerne tout le monde, Joël dit, prophétise, même sur les serviteurs et les servantes. Donc, je vous dirais, il n'y a personne de trop ici. Hein ? Il n'y a pas de bas de gamme pour le Saint-Esprit. Et ça me fait du bien de le savoir. Et ça me fait du bien de le savoir. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Vous savez, c'est comme l'eau qui vient féconder les déserts. Hein ? Je placerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, la colonne de fumée. On a parlé de colonne de fumée. Bon, ça, si on ne connaît pas le livre de l'Exode avec ce qui s'est passé au Sinaï, on est un petit peu décoiffé là. On ne sait plus, hein, si on le prend littéralement. C'est juste, je vais faire alliance avec un peuple et me manifester dans ma sainteté et mon amour. Il y aura des stars qui vont tomber, là. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, à l'avènement du jour du Seigneur grandiose et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En effet, il y aura des rescapés sur la montagne de Sion et de Jérusalem. Comme le Seigneur l'a dit parmi les survivants, que le Seigneur appelle. Je vous rends juste attentif à certaines choses que j'ai déjà dites. Au chapitre 2 de Joël, on voit qu'il y a un jugement qui s'approche. Des armées ennemies vont envahir le pays de Dieu, le peuple de Dieu. Et tout d'un coup, on ne sait pas comment ça se fait, annonce de l'effusion du Saint-Esprit. C'est ce qu'on en a vu, toute chair. Même les serviteurs et les servantes. Le règne de Dieu va venir avec des signes précurseurs. Et la question que nous posons maintenant, est-ce que je m'ouvre à cette nouvelle création, moi également? Est-ce que je me ouvre encore? Puisque c'est une effusion qui n'a jamais terminé. Elle a commencé, mais elle n'est pas terminée. Nous avons besoin de vivre dans cette dépendance de l'esprit. Soyez toujours en train d'être remplis de l'esprit, n'est-ce pas? Il y en a qui se promènent en disant, un jour j'ai eu une triple effusion du Saint-Esprit. J'ai dit, tant mieux pour moi, et maintenant ça va? C'est maintenant que c'est important. Soyons ouverts, parce que nous aimons le Christ, à ce grand ménage que fait l'Esprit. Il nous rend témoins par l'Esprit. Et c'est ce que nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Être témoin aujourd'hui, ce n'est pas aussi facile qu'on l'imagine, même ici. Souvent on dit, ah si j'étais en Iran, en Irak, en Afghanistan, certainement, certainement. Mais vous pensez que les autorités et les puissances dans l'esprit matérialiste et d'aujourd'hui est moindre? Il a plus d'impact sur nous qu'on l'imagine aussi. On a besoin de l'esprit de Dieu pour marcher dans la générosité d'une rencontre, dans l'amour. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais d'amour. Pour aimer, j'ai besoin de force. Nous avons besoin de force. Donc, témoins, ce n'est pas simplement des gens qui disent « Hey, moi j'ai vécu quelque chose de chouette avec le Saint-Esprit, vous le pouvez aussi. » D'accord, j'ai rien contre. Simplement que quand je compare les expériences, elles sont aussi diverses que nos nez. Et nos nez ne se ressemblent pas tous les uns aux autres, n'est-ce pas? Nos expériences avec l'Esprit de Dieu sont très diverses. L'important, c'est d'être branché à cette source de la vie pour qu'il accomplisse en nous cette nouvelle humanité qui a commencé. Jésus est sérieux, ce qu'il a commencé, il veut le poursuivre avec son peuple. Maintenant, je vous rends attentif à quelque chose. J'ai là un livre qui porte un drôle de titre, « Les dons de l'esprit entre charismanie et charisphobie ». Phobie, c'est la peur, et la manie, c'est de revenir toujours dessus, d'accord? Quelle que soit la chose, que ce soit charisme, manie ou que ce soit peur de l'esprit, déconnecté du Christ et de son projet, ça ne vaut pas grand-chose. Même l'apôtre Paul dit, si tu as tel et tel don, si ce n'est pas pour l'édification commune, si je n'ai pas la charité, c'est de l'airain qui résonne, d'accord? La charité. Autrement dit, en français compréhensible, l'amour qui restaure est ce que le Saint-Esprit notre Seigneur, le Saint-Esprit, veut faire. Alors, vous avez regardé d'où viennent ces drôles de langues. J'ai mis une sorte de... Je ne sais pas, vous ne voyez peut-être pas la mer Méditerranée au milieu. Hein. Oui, là, il faut des bonnes lunettes. Simplement, je voulais vous dire que les différents pays qui sont mentionnés là sont incroyables. De la Mésopotamie, les Mèdes, les Grecs en Phrygie, et jusqu'en Arabie, l'Égypte, la Libye, tout cela était là, présent, dans cette fête de reconnaissance, dans cette fête de la Torah. Et l'esprit, c'est l'esprit de la Torah, l'esprit de Torah qui fait que cette volonté de Dieu, on puisse la faire, mais décidément, elle est ouverte, selon les prophéties données à Abraham, à toutes les nations qui seront bénies en toi. toutes les nations seront bénies en toi. C'est ça le projet. Enfin, autrement dit, il n'a pas changé de progrès. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas juste un caprice qui est venu par-dessus. Alors, parlons de ces manifestations. Ils parlèrent des merveilles de Dieu dans les langues maternelles des autres. Ça veut dire quoi ? Qu'ils portaient la pensée de Dieu dans les catégories de communication de celui que je vais rencontrer, qui ne sont pas nécessairement les miennes. Et pour cela, il faut que je puisse m'ouvrir à ce miracle d'avoir envie de communier avec autrui. C'est la raison pour laquelle esprit et mission, ça va toujours ensemble. J'imagine que le pasteur Christina voit la relation esprit et mission. Il y a des gens ici qui ont été des traducteurs de la Bible, hein, avec Wycliffe, c'est juste. Ça, c'est le programme qui continue dans les langues de l'autre. Mais là, il y a un miracle, c'est qu'ils n'ont pas appris ces langues. Et c'est quelque chose qui est venu, va savoir d'où, sinon de l'esprit qui a décidé que le règne de Dieu serait sur tout le monde. J'aimerais juste vous rendre attentif que ces langues-là sont intelligibles. Ce n'est pas la même chose que ce que chez les Corinthiens, plus tard, on appellera la glossolalie ou le parler en langue, qui sont des langages inintelligibles, qui sont destinés à m'édifier moi-même. Ce n'est pas la même chose ici. Ici, c'est mission mondiale. J'aimerais arriver vers la conclusion. Continuons le ministère de Jésus par l'Esprit de Dieu. L'Esprit a comme travail de réactiver la mémoire de Jésus en nous, de réactiver sa mentalité en nous, sa mission en nous. L'Esprit vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit, a dit Jésus. Vous voyez la relation entre l'Esprit et Jésus. Et du coup, chacun sait ce qu'il a à faire. Si c'est l'Esprit de Jésus, il nous amènera à côtoyer des gens que nous ne côtoyons pas normalement. Il change le regard sur autrui et nous rend disponibles. Alors, nous allons avoir un moment de prière. On peut nommer mentalement, à voix basse ou à voix haute, le prénom d'une personne. On peut prier pour que je devienne, vous deveniez, témoin de Jésus, de son amour pour elle. Ou bien, pour que l'Esprit fasse son œuvre en vous ou en elle, demandez l'assistance. Vous voulez bien ? L'assistant envoyé par Jésus vous guidera, nous a rappelé l'Évangile selon Jean. Prions le Seigneur. Merci de prier à voix haute pour que tout le monde entende jusqu'au bout de la salle et court, de telle sorte que quelques-uns puissent le faire. Que l'Esprit dirige nos soupirs. Amen.
Seigneur, tu connais la tristesse ce matin, et avec mes frères et sœurs, nous aimons que nous ensemble reconnaître notre fils cadet Christophe.
Oui. Amen. Amen.
Et moi, Seigneur, je vais t'apporter mes deux fils, Damien et Stéphane. Et merci, Seigneur, parce que tu m'as dit, mais tu nous as dit que ce qu'on a n'est pas le tien, le mien, mais le tien. Et Seigneur, merci parce que nous avons cette assurance, Seigneur, que tu réponds à nos prières.
Oui.
Loué sois-tu, béni sois-tu, mais qu'en attendant, nous, Seigneur, nous devenions de plus en plus ce que tu veux.
Jésus. Oui.
Amen. Amen. Seigneur, tu entends les prières qui ne se sont pas formulées à voix haute. Tu les entends, tu les connais. Nous te prions, Seigneur, que chacun ici puisse être trouvé aimant, respectant, témoignant le jour où tu viendras. C'est vrai, nous te prions pour nos parents et nos enfants, mais nous te prions également pour que tu les rejoignes, les personnes que nous allons croiser. Aide-nous, Seigneur, à communier comme des humains, mais aussi à nous rencontrer dans l'amour authentique. Refléter l'amour qui est le tien pour rendre la société habitable et la terre nouvelle par la puissance de ton esprit et jusqu'à ce que tu viennes. Saint-Esprit de Dieu, tout au fond de nos cœurs, fais resplendir dans nos vies et nos relations la gloire du Seigneur. Nous nous ouvrons à toi, Seigneur. Et nous nous attendons à toi, parce que toi, tu travailles d'abord et tu nous fais la grâce, dans nos situations et nos dons, de nous ajuster sur ce que tu fais. Nous te bénissons, Dieu de la vie. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment de la Sainte Cène. Et oui, Dieu nous dit encore ce matin que tout est accompli. C'est lui qui l'a voulu pour nous, c'est lui qui l'a fait. Et je lirai d'abord un texte dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 66, les deux premiers versets. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Comme l'a dit Claude, il faut avoir soif pour venir à lui. Et c'est ainsi que nous pourrons boire à sa source si nous avons soif. Et je lirai encore des paroles du Christ dans Marc au chapitre 3. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Oui, c'est vrai, le Seigneur veut nous enrichir par ce repas qu'il a préparé pour nous, mais il faut que nous soyons disposés, que nous ayons soif de sa présence et de ce qu'il veut nous donner.
Pendant le repas de la Pâque avec ses disciples, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, il prit une coupe et après avoir rendu grâce au Seigneur, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur a dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour une multitude. En vérité, je vous le déclare, avait dit Jésus, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. »
Oui, Seigneur, c'est avec confiance que nous voulons prendre ce repas, participer à ce repas, à cette alliance que tu veux faire avec nous. Oui, Seigneur, trouve-nous dignes de prendre ce pain et ce vin et que nous ayons à l'esprit que c'est ton corps qui a été donné, ton sang qui a coulé pour nous et nous te disons encore notre reconnaissance. Amen. Si quelques personnes pouvaient venir nous faire distribuer le pain et le vin, comme à l'accoutumée, les gobelets qui sont au centre auront du jus de raisin et ceux qui désirent la coupe, qu'ils le fassent signe.
Nous rendons grâce au Seigneur pour la force et le réconfort que tu nous as donné par le corps et le sang du Christ. Loué sois-tu, Seigneur, pour la joie de ce repas de communion et l'anticipation du moment où nous le prendrons de nouveau avec toi. Nous te louons, Seigneur, pour le nouvel exode où tu nous as appelés à participer, pour la présence de ton Saint-Esprit. Nous t'adorons, Seigneur. Amen.
Nous arrivons au temps de l'offrande et nous chanterons le 316. Tournez les yeux vers le Seigneur, c'est lui aussi qui nous comble de tout bien. Et nous voulons, par cette offrande, lui dire notre reconnaissance. Bénissons, Seigneur, de ce que tu nous permets de faire cette offrande. C'est aussi pour que ton regard puisse, au travers de tes serviteurs, être porté au loin, venir en aide à ceux qui cherchent, qui te cherchent. Oui, Seigneur, bénisse cette offrande, nous te le t'en prions. Amen. Nous arrivons au temps des annonces. C'est Michel, je crois qu'il y a encore une autre annonce qui va venir. Hein, c'est bon? Ah, c'est toi qui détiens toutes les annonces.
patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. La Fontaine. C'est pas dans Proverbes. Voilà, les annonces d'aujourd'hui. Mardi, donc, les ateliers bibliques. Dis-nous, Claude, quel est le sola qui sera exploré ce mardi 6 juin ?
Alors, l'un des grands piliers de la réforme, c'est qu'on est justifié par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Donc, la justification par la foi.
Merci. À 19h30, mardi 6 juin, rencontre du fil d'argent, temps de prière ouvert à tous. Samedi 10 juin, il y a la rencontre générale, c'est-à-dire la rencontre des délégués de notre fédération d'église, la rencontre plénière qui a lieu à Fribourg. Et dimanche 11 juin, c'est le culte particulier, le culte de fin de catéchisme. L'après-midi de ce même dimanche 11 juin, à 16h30, à la Pélisserie, une conférence pour les 200 ans du réveil de Genève, les fruits du réveil du 19e siècle dans le domaine social et philanthropique. C'est Jacques Blandonnier, l'orateur. Et le samedi 17 juin, donc la semaine d'après, le groupe Recherche Pasteur vous invite à un temps de prière en vue de l'élection du futur pasteur. Ce temps de prière aura lieu dans nos locaux, ici, en général, soit dans cette salle, soit en dessous, entre 9h30 et 11h30. Et dimanche 18 juin, pour dimanche 18 juin, c'est terrible ce truc, dimanche 18 juin, je cède la parole à Ludovic.
Alors, il y aura les tresses, il y aura le petit déjeuner à 8h30, donc il y a des feuilles sur le panneau à l'entrée où vous pouvez marquer votre nom et puis dire si vous venez au déjeuner et puis combien de tresses vous voulez.
Voilà, donc on peut s'inscrire soit pour le petit déjeuner, soit pour commander sur le panneau qui est à la sortie. Ce même dimanche, ce sera un dimanche vraiment riche, il y aura les baptêmes avec un apéritif et un repas canadien. Donc le petit déjeuner, les baptêmes, l'apéritif, le repas canadien, on y est. Et mercredi 28 juin, il y aura un colloque, donc une assemblée générale de notre église, colloque qui remplace celui qui était prévu cette semaine, à une date particulière, un colloque le mercredi, c'est pas usuel, avec entre autres l'élection, c'est le point fort, non, laisse-moi s'il te plaît, le point fort de ce colloque, l'élection de Philippe Anchaud, et à ce sujet, je cède la parole à Catherine qui, au nom du groupe Recherche Pasteur, veut nous entretenir de quelques développements.
Ce sera assez vite fait. Donc, le groupe de recherche de Pasteur souhaite vous donner quelques informations pour le mandat qui lui a été confié, sur la poursuite de ce mandat. Donc, le forum de discussion avec la présence partielle du candidat et de son épouse, Philippe Haïdi Anchaud, a eu lieu lundi 29 mai. Nous sommes très reconnaissants du déroulement de cette soirée et nous étions très reconnaissants de voir le nombre de personnes présentes. Ça marque ainsi un intérêt pour la question. Et c'est vrai que pour nous, c'était on était très reconnaissants. Les discussions ont été ouvertes, authentiques, et chacun a pu poser les questions qu'il avait à cœur. Philippe et Heidi ont eu l'occasion de répondre aux différentes questions avec sincérité aussi, authenticité aussi, humour aussi. Un temps d'échange a également été offert à l'Assemblée en l'absence des candidats. Et nous notons que tout s'est passé dans un profond respect des uns des autres. Le groupe de recherche de pasteurs ressort de cette rencontre avec la conviction renforcée que Philippe Anchaud est le pasteur que Dieu met sur le chemin de l'église de Mérin pour la succession de Roger Sewell. Nous cheminons dès lors, comme l'a dit Michel, vers la présentation de ce candidat pour son élection le 28 juin prochain lors du colloque. Et vous recevrez toutes les informations avec la convocation au colloque. Il vous est encore possible, pour ceux qui ne sont pas inscrits comme membres votants, ici ça se passe comme ça, enfin, je sais pas, d'en faire la demande auprès du conseil. Michel, Elisabeth Cretenny, Sylvain Dupertuis, Myriam Muller. Les bulletins de vote vous seront remis dès le 18 juin, après le culte, et puis après on fera un envoi prioritaire pour ceux qui ne seront pas au culte, aux personnes inscrites. Donc, la possibilité d'un vote par correspondance sera aussi offerte aux personnes qui ne pourraient pas être présentes pour la votation du 28 juin lors du colloque. Michel a déjà mentionné la rencontre de prière samedi 17 juin. Je ne reviendrai pas. Vous êtes bien sûr tous conviés samedi 17 juin de 9h30 à 11h30. Et nous tenons à remercier le Seigneur pour ce chemin parcouru, pour la paix et l'unité qu'il a mis dans nos cœurs, ainsi que pour chacun de vous, pour sa participation, prière active. Et nous tenons à disposition si vous avez des questions ou des remarques. Et je rappelle simplement qui fait partie du groupe de recherche de pasteurs: Bernard Bailly, André Dufour, Sylvain Félix, Claude Parnigoni, Xavier Schmitt, Sylvain Wenger et moi-même. Merci.
Voilà, merci. On peut rester encore un petit moment. Alors, c'est sûr que le Conseil approuve cette proposition d'amener Philippe Anchaud à l'élection devant la communauté. Par rapport à la liste de membres, peut-être vous savez pas si vous faites, vous vous rappelez pas si vous faites partie ou pas. Elle est affichée à la sortie. C'est une feuille rose, je dirais, entre le rose et l'abricot, qui comporte la dernière liste de membres. Vous pouvez consulter si vous êtes présent dessus. Il est possible de s'y inscrire, comme l'a dit Catherine. Trois conditions: primo, accepter la confession de foi de l'Église. Deuxio, participer aux activités de l'Église. Et tertio, la cohérence entre la profession de foi et la vie de tous les jours. Voilà. On peut ensuite passer au dia suivant. Voilà, t'es qui toi, ta photo, elle est où? Elle est où ta photo? Voilà, le but donc, c'est de constituer un album photo de chaque personne de l'Église, qui sera très utile pour Claude Becher, qui cherche encore à mettre des noms sur des visages et des visages sur des noms, et puis également pour le futur pasteur. Alors, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité de vous faire tirer le portrait aujourd'hui auprès de Sylvain Dupertuis, qui se lève au fond de la salle. Merci Sylvain. Ah non, il lève que son appareil photo. Voilà, merci. Sylvain est là derrière, il est prêt à vous tirer le portrait. Une autre manière de faire, c'est de déposer une photo à l'adresse photo@emmerin. Sur l'adresse mail photo@emmerin, vous avez reçu également un courriel qui propose une autre formule qui est également effective. Et puis, alors on parle du nouveau pasteur, mais on devra fêter la fin du ministère de Roger et Dominique Sewell parmi nous. Et on propose de le faire le dimanche 27 août avec un culte de reconnaissance, mais aussi avec une journée. Un repas et une journée pour les entourer, pour se remémorer les bons souvenirs. Pour cette journée, évidemment, nous allons avoir besoin de forces vives, de gens qui sont disposés, qui ont des idées, mais qui sont aussi disposés à mouiller le maillot. Vous pouvez le faire, vous pouvez vous annoncer auprès de Claire-Lise Serex, mon épouse, qui attend avec reconnaissance vos inscriptions. Voilà, bon dimanche à chacun. Il y a aujourd'hui un repas communautaire qui est également canadien. C'est un communautaire canadien.
Voilà, cette célébration touche à sa fin. Merci à Michel Cretigny pour la présidence, aux super instrumentistes et voix qui nous ont conduits. Merci. Je vous invite à vous lever. Nous demandons la bénédiction du Seigneur. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ chacun et chacune par notre nom, et qui nous visite par son Esprit, soit loué. Que le pardon, que sa paix et que son amour nous soient donnés en abondance dans cette semaine, pour nos vies, pour les croisements des personnes que nous allons rencontrer. Allons dans sa joie, la joie du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Bon dimanche aux uns et aux autres.